Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, comme tous les jours, vous le savez. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une des taux exceptionnels de réservation dans les hôtels et les campings cette année. La destination France à la côte, les tout derniers chiffres avec Geoffrey Branger. Elisabeth Borne sur le terrain et à la manœuvre pour préparer le premier texte sur le pouvoir d'achat. La Première ministre s'entretient avec les différents présidents de groupe. Victor Chabert est à ses côtés. L'armée ukrainienne recule dans le Donbass, à Severodonetsk. Elle abandonne aux Russes cette ville clé, détruite désormais à 90%. Certains virologues s'inquiètent au vu de la reprise de l'épidémie de Covid. Faut-il rendre à nouveau le port du masque obligatoire ? On va tenter de répondre à cette question. Le pouvoir d'achat, le Covid, on en parle avec vous au 39-21. Vous appelez et vous passez à l'antenne. Et avec Bastien Lachaud. Bonjour Bastien Lachaud.
Bonjour à vous.
Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et avec Marie Lebec. Bonjour, bonjour. Marie Lebec. Députée La République En Marche. Renaissance des Yvelines. Voilà, bonjour à tous les deux et à tout de suite.
Europe 1.
Est-ce que vous avez réservé vos vacances ? Je vous pose cette question parce que ça s'active beaucoup. Si vous avez la chance de partir, ne tardez pas. La saison s'annonce exceptionnelle en France. Déjà, 8 millions de billets SNCF vendus. On en a parlé dans Europe Midi, plus 10% par rapport à l'été 2019, le dernier été sans Covid. Ça s'active également du côté des réservations de logements. Geoffrey Branger avec nous. Bonjour Geoffrey.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Où en est-on des réservations de logements pour cet été en France ?
Alors ça cartonne, hein. C'est d'ailleurs déjà difficile de trouver des hébergements dans certaines régions comme en Corse, sur la Côte Basque ou encore en Bretagne. 90% des gîtes de France par exemple sont réservés. Pour les villages vacances Bel Embras, les établissements sont déjà bien remplis. Alexis Gardy, le président du groupe.
On est très confiant pour cet été. On est aujourd'hui à un peu plus de 70% d'occupation sur juillet et un peu plus de 60% sur le mois d'août. Donc la dynamique est très bonne, il est temps de réserver.
Du côté du Club Med, tous les hôtels sont complets, que ce soit en France ou en Afrique du Nord. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'inflation, les Français vont tenter de réduire la facture. Alors, les réservations explosent dans les campings, et souvent plus économiques, mais avec cette très forte demande, les prix augmentent, comme l'explique Alain Calmé, le président du groupe Omer.
Cette année, les tarifs montent, il y a beaucoup de demandes. On est presque plein, et dans certains endroits, ça va être à peu près la même chose que l'an dernier, mais dans d'autres, ça peut atteindre plus 10%.
Alors, si les Français seront nombreux à partir cet été, ils dépenseront moins, selon une étude de CSA Research pour Cofidis, 1 641 € en moyenne cette année, une baisse de 8% par rapport à 2019.
Geoffrey Branger, merci beaucoup Geoffrey pour ces informations. Des pluies d'orage, des pluies torrentielles se sont abattues sur Auxerre hier soir. Les précipitations ont créé des torrents d'eau dans certaines rues et ont occasionné des coupures de courant. Un millier de foyers privés d'électricité, un phénomène jamais vu. C'est ce que nous a dit le maire de la ville de Cressan-Marot. Écoutez.
Vraiment, c'était incroyable. Il y avait des rues, c'était des torrents. Je crois que ça n'était jamais arrivé, un tel phénomène de ruissellement. On a eu pratiquement un peu plus de 20 mm de pluie en l'espace de 2 heures, alors que sur un mois de juin, la moyenne mensuelle, c'est à peu près 60 mm. On a eu beaucoup de garages inondés, de caves inondées, des crèches, un centre de loisirs où partiellement le plafond s'est effondré avec l'accumulation d'eau de pluie dans l'isolation. Déjà ce matin, on est en train un petit peu de faire le diagnostic sur les réseaux d'eau potable, entre autres, sur les voiries abîmées pour sécuriser et s'assurer qu'il n'y ait pas de risque d'effondrement. Et puis dès lundi, eh bien, on va travailler pour remettre à niveau toute la voirie et que la vie puisse reprendre et continuer normalement.
Et si elle restait à Matignon, la Première ministre Elisabeth Borne est à nouveau sur le terrain, accompagnée d'Olivier Dussopt, ministre du Travail. Ils sont tous les deux à Bailly-Romainvilliers sur le thème de l'emploi et de l'apprentissage. Où vous vous trouvez, Victor Chabert ? Bonjour Victor.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Une nouvelle sortie de terrain pour la Première ministre pour tenter de sauver sa place ?
Oui, clairement, hein, pour montrer qu'Elisabeth Borne n'est pas sur la sellette, tient la barre, même si elle assure que ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas une manière de montrer, c'est le fait que je suis à la tâche, qu'on est à l'action, qu'il y a des sujets à traiter, qu'on les traite. Et notamment la prolongation de ces aides à l'apprentissage, c'est donc, ça se terminait le 30 juin, mais vous voyez, c'est maintenant qu'il fallait les prolonger.
Elisabeth Borne passe à l'offensive, multiplie les déplacements, les interviews, une façon d'enjamber les attaques alors que la Première ministre est contestée jusque dans son propre camp. Certains vont même jusqu'à pronostiquer un départ rapide. Elle continue également les consultations par téléphone avec les présidents de groupes parlementaires. Objectif, voir s'il peut y avoir une méthode de travail avec les oppositions ou s'il va falloir aller chercher une majorité texte par texte. Pour l'instant, il y a une forme d'attentisme. Les oppositions ne semblent pas vouloir coopérer avec le gouvernement. Elisabeth Borne laisse aussi en suspens des questions essentielles. On ne sait pas encore, par exemple, si elle va engager la responsabilité du gouvernement lors de sa déclaration de politique générale prévue en théorie première semaine de juillet, signe d'une certaine fébrilité de l'exécutif selon les opposants et qui pourrait poser une vraie question de légitimité.
Victor Chabert, merci beaucoup Victor. 4 mois, jour pour jour, après le début de la guerre en Ukraine, Kiev ordonne à ses troupes de quitter Severodonetsk. Dans cette ville industrielle de l'est du pays, les combats font rage depuis des semaines. Cela ne fait plus aucun sens de rester sur des positions constamment bombardées. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur ukrainien donc de cette région de Louhansk. Zoé Pallier avec nous. Bonjour Zoé.
Bonjour.
C'est une étape stratégique pour la Russie.
Oui, parce que ça permet à Vladimir Poutine d'avancer dans son plan de conquête totale du Donbass, principal objectif affiché de l'offensive russe. Alors le rapport de force était très déséquilibré à Severodonetsk. Plusieurs fois, la ville a failli basculer aux mains des Russes. Kiev cherche donc à préserver ses effectifs, mais pour le général Pelistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, Severodonetsk restera un symbole de la résistance ukrainienne.
La perte de Severodonetsk, même si elle peut constituer une défaite sur le plan militaire, ne remet pas en cause la stratégie défensive ukrainienne. Les forces ukrainiennes vont se replier en arrière, notamment sur la rivière Dniepr. C'est un repli tactique. Certes, la ville est abandonnée aux mains des Russes, mais pour autant, les Russes ont mis plus d'un mois pour avancer de 5 km. Et c'est donc finalement un des objectifs que recherchaient les Ukrainiens, user l'armée russe dans la conquête de la ville de Severodonetsk.
Reste la question des civils coincés dans cette ville détruite à 90%. D'après le gouverneur de Lugansk, 568 personnes sont encore réfugiées dans une grande usine chimique de la zone industrielle.
Zoé Pallier, merci Zoé. L'Ukraine qui est un pays en guerre depuis 4 mois. Aujourd'hui, près de 100 000 Ukrainiens ont déjà été accueillis en France, pour la plupart des femmes, à qui certains ont décidé de tendre la main. C'est le cas de restaurateurs en manque de main-d'œuvre. Un exemple, près de Lille, cet établissement vient d'embaucher Natalia, 39 ans. Cette mère de famille est arrivée dans le Nord il y a 2 mois avec ses 4 enfants. Cet emploi, une aubaine pour elle comme pour le restaurant. Écoutez le reportage de notre correspondant Lionel Gougelot qui a rencontré l'équipe du restaurant pour Europe 1.
En un peu plus d'un mois, Natalia est devenue indispensable en cuisine.
Donc Natalia aide à la plonge, est un peu commis de cuisine pour éplucher les légumes, aider le chef et le second.
Une bénédiction pour Anne-Sophie Vanesbrook qui a embauché la jeune femme ukrainienne en urgence après la démission de son employée française.
Aide énormément précieuse car malheureusement depuis le confinement et le Covid, on ne trouve plus de personnel en cuisine.
Logée dans un centre d'accueil de la commune, Natalia ne parle ni français ni anglais. Et pour les tâches qu'on lui confie, cela ne pose aucun problème.
Non, grâce à Google Traduction, c'est nickel. Après, avec les mimes, les gestes, tout va bien, quoi.
Natalia n'en finit plus de remercier ses patrons. Ce travail, 20 heures par semaine, rémunéré au SMIC, c'est pour elle un premier pas pour son intégration et son efficacité a bluffé toute l'équipe, assure le chef Guillaume.
Elle se met debout sur le plan de travail, elle nettoie les plafonds, les sols. Franchement, pour nous, c'est un grand soulagement. Heureusement qu'on l'a.
C'est une belle personne, elle est toujours souriante, volontaire et elle rechigne pas du tout sur le travail, quoi.
Un autre poste en cuisine est encore à pourvoir et si d'autres candidates ukrainiennes se présentent, elles seront ici toujours les bienvenues. À ton pleuve, Lionel Gougelot, Europe 1.
Europe 1, il est midi 8.
Europe midi, Romain Desarbres.
Les vacances d'été qui pourraient être gâchées par un invité surprise. Devinez qui ? Le Covid, bien sûr. Depuis la fin mai, les contaminations ont été multipliées par 3. 80 000 nouveaux malades ces dernières 24 heures. 50 000 nouveaux malades en moyenne ces 7 derniers jours. Hausse des hospitalisations. La faute aux variants BA4 et BA5. Petit frère d'Omicron. Yasmina Katou. Forcément, la question se pose. Va-t-on devoir remettre le masque ?
Eh bien, Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui conseille le gouvernement, estime qu'il serait raisonnable de se couvrir le visage dans les transports en commun alors que l'épidémie repart à la hausse. Selon Antoine Flao, épidémiologiste à l'Université de Genève, il faudrait se masquer dans tous les lieux clos.
Le masque, il faut le voir comme un filtre. Si vous êtes dans une salle qui baigne de coronavirus et que vous portez un masque, peut-être vous serez infecté, mais vous serez beaucoup moins infecté que vos voisins qui ne portent pas de masque, parce que simplement, vous aurez beaucoup moins de particules virales qui rentrera dans l'arbre respiratoire. Le Covid que vous allez développer, il sera beaucoup moins sévère, vous aurez moins de complications.
Pour compléter la protection du masque, l'épidémiologiste met en avant une autre mesure, la vaccination des plus de 60 ans. Aujourd'hui, seulement un tiers des 60-79 ans les plus vulnérables ont reçu un second rappel. Alors dans les prochains jours, 8 millions de personnes éligibles à la quatrième dose vont recevoir un message de l'assurance maladie pour leur rappeler d'aller se faire vacciner.
Voilà, le Covid, faut-il à nouveau rendre le masque obligatoire, par exemple dans les transports en commun? On va en parler dans un instant. C'était il y a 40 ans, Jean-Loup Chrétien devenait le premier Français à s'envoler dans l'espace à 84 ans. Il travaille toujours, notamment pour le compte de la NASA. Un infatigable passionné qui a décidé de mettre aux enchères certains de ses objets spatiaux qui sont partis en orbite avec lui. Et oui, des objets estimés entre 800 et 15 000 euros pour les plus chers. Des bénéfices qu'il compte reverser au secteur de l'aéronautique. Mathieu Limongi l'a contacté, écoutez, pour Europe 1.
Il a encore des images plein la tête. Ce premier vol, Jean-Loup Chrétien s'en souvient comme si c'était hier.
Les moments passés avec les collègues, l'arrivée en orbite, le début du vol en apesanteur, le tour de la Terre en 1h30.
Une mémoire intacte qu'il a choisi de transmettre par les objets, un gant de combinaison spatiale, un blouson, une montre ou encore un carnet d'équipage. Tous ont voyagé avec lui dans l'espace. Pas question de les laisser à n'importe qui.
Je préfère savoir que ça part chez des collectionneurs. Quand il y en a, c'est assez réconfortant. J'ai assisté à des grosses déceptions d'offres d'objets qui repartaient dans des cartons et qui étaient oubliés.
Autre objet mis aux enchères, un orgue miniature, car avant de rêver d'espace, l'astronaute se voyait organiste dans les cathédrales. Alors, en 1988, pour son deuxième décollage, il emporte l'instrument avec lui et conjugue ses deux passions.
Ce petit instrument qui allait là-haut, c'était un symbole. Alors, c'était pas facile, je ne pouvais pas jouer grand-chose de sophistiqué. Donc j'avais improvisé sur le thème d'un negro spiritual, When the Saints Go Marching.
40 ans plus tard et 200 km plus bas, un air qui lui trotte encore dans la tête.
Voilà de quoi se faire plaisir si vous êtes fan d'espace, fan de Jean-Loup Chrétien. Voilà une vente aux enchères exceptionnelle dont je voulais qu'on vous parle dans Europe Midi, bien sûr. Les fans de rugby retiennent leur souffle. La finale du top 14, c'est ce soir. Castres face à Montpellier. Les deux premiers de la saison régulière se retrouvent en finale du championnat de France de rugby. Castres, petite ville enclavée face à Montpellier, agglomération étudiante. Axel May, une finale qui oppose donc deux clubs qui ne se ressemblent pas, Axel. Hein.
Oui, vous avez d'un côté un club, le CO, l'un des plus petits budgets du top 14, installé à Castres, petite sous-préfecture de 40 000 habitants, un club enclavé, mais qui vit au rythme de sa population tarnaise. David Daricarère est l'un des entraîneurs adjoints du Castres Olympique.
Ben, toute la semaine, j'ai discuté avec des commerçants qui me disaient ben, « Les gens ne sont pas pareils à Castres cette semaine. Les gens, ils ont tous la banane, tous le sourire. Ils sont heureux. Quoi. Ils sont heureux pour nous. Et nous, on essaie justement de les rendre heureux, de les rendre fiers. C'est ça, ce lien fort qui nous lie avec ses supporters et avec les habitants en général. »
Alors, un lien fort et un palmarès important. 5 titres de champion de France dans l'histoire du Castres Olympique, dont le dernier, il y a 4 ans, face à Montpellier. Montpellier, hein, c'est l'une des principales agglomérations françaises, réputée pour sa vie étudiante et régulièrement récompensée du trophée symbolique de ville la plus sportive de France, football, handball et donc rugby. Le club appartient à l'homme d'affaires, Moed Altrad.
C'est le plus jeune club de top 14. On a 30 et quelques années, là où Castres, je sais pas, un siècle. Il n'y a pas d'impatience, on a toute la vie. Et on sait bien, c'est pas parce que vous voulez le Brennus que vous allez l'avoir.
Alors ce bouclier de Brennus, Montpellier l'a seulement touché du doigt. 2 défaites en finale, en 2011 et en 2018, donc face à Castres. Ce soir, attention, gros défi physique pour les deux équipes. C'est pas forcément l'affiche que tout le monde attendait, mais c'est une affiche avec beaucoup, beaucoup de supporters qui seront présents. Jusqu'à 80 000, on en attend au Stade de France.
Merci Axel. Vous n'allez pas échapper, Axel, à la petite question pronostique.
J'ai envie de dire, mais je vous réponds. J'ai envie de dire le Castre olympique, parce que c'est ce petit village gaulois, c'est souvent comme ça qu'il se représente, c'est ce petit village gaulois dans le monde du top 14.
Bon, coup d'envoi, merci Axel. Coup d'envoi à 20h45 au Stade de France, donc 80 000 spectateurs, vous l'avez dit. Le RERB devrait fonctionner quasi normalement, il y aura des complications sur la ligne D du RER à cause d'une grève. Bon, le match sera à suivre à la radio sur Europe 1 et à la télévision sur Canal+. Voilà, vous savez tout. La météo avec vous Valérie Darmon, les orages se calment peu à peu, hein ?
Effectivement Romain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orange orage jusqu'en milieu d'après-midi, mais le Tarn et l'Aveyron ne le sont plus. Pluie ou averses localement orageuses se succèdent donc sur ces régions passagèrement intenses, encore accompagnées d'un risque de grêle et de rafales. Les averses s'espacent aussi de la Basse-Normandie à l'Aquitaine ainsi qu'en Occitanie. Et dans quelques heures, après l'accalmie de ce matin, une zone de pluie plus régulière rentre sur le Finistère. Ce passage pluvieux traversera tout le nord-ouest au cours de l'après-midi, avant de se décaler vers le Cotentin et les Pays de la Loire dans la soirée. Cet après-midi d'ailleurs, les valeurs n'excéderont pas 18 à 21 degrés sur l'ouest de la Bretagne, sur le pourtour méditerranéen prévoyé entre 26 et 30, et partout ailleurs entre 22 et 26.
Merci beaucoup Valérie, il est midi 15, restez bien avec nous. Dans un instant, le débat, les débats d'Europe Midi, on va parler du pouvoir d'achat, on va parler du Covid, on va parler d'Elisabeth Borne, tiens, est-ce qu'elle doit rester ou pas? On en parle avec vous au 39-21 et on en parle également avec Bastien Lachaud, député La France Insoumise, et avec Marie Lebec, députée Renaissance. A tout de suite.